Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous aujourd'hui puisque nous avons le grand plaisir de recevoir la paperesse du Froufrou comme on la surnomme, à savoir Chantal Thomas qui nous fait le plaisir d'être parmi nous suite à l'apparition chez Perrin de son livre Histoire de la lingerie. Chantal Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors bien sûr, on vous présente toujours par rapport à votre lingerie, vous êtes connue, reconnue mondialement par rapport à vos créations, mais finalement on oublie souvent que l'essentiel de votre créativité c'est du prêt-à-porter, et c'est par le prêt-à-porter d'ailleurs que vous avez débuté votre carrière.
Oui, en fait j'ai commencé, j'ai fait très longtemps du prêt-à-porter jusqu'à 95, et j'ai commencé la lingerie dans les années 77, parce qu'il y avait un vrai manque dans ce domaine, à une période où les féministes étaient passées et avaient jeté les soutiens-gorge, brûlé les soutiens-gorge. Et moi, je suis arrivée, en fait, jeune fille, sans aucun préjugé sur la lingerie, c'est-à-dire que pour moi, ça ne correspondait pas à une quelconque soumission à l'homme. Et je trouvais simplement que c'était très joli quand je regardais les films anciens, quand je regardais les vieux magazines. Je trouvais que la lingerie, c'était quelque chose de très beau. Donc, j'en ai fait un tout petit peu au départ pour accessoiriser les défilés de mode, pour mettre sous une chemise un peu transparente. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un fabricant qui veuille bien me faire ce que je voulais, parce que je voulais pas la même chose que tout le monde, évidemment.
Et pas avec les matières de tout le monde non plus.
Oui, et puis à l'époque, la lingerie était très classique, enfin très fonctionnelle et classique. C'était une période où la lingerie était démodée.
Mmh. Unisexe aussi, incolore et
oui,
inodore.
Couleur chair, et c'était surtout utilisé pour les femmes qui en avaient besoin. Enfin, c'était du soutien plus que de l'esthétisme. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu. Et il se trouve que ma génération de femmes devait penser comme moi et devait avoir les mêmes envies parce que ça a tout de suite séduit. Et on m'en a demandé, et donc j'en ai fabriqué. Mais c'est vrai que jusqu'à 95, j'ai fait beaucoup plus de prêt-à-porter que de lingerie.
Alors, les femmes avaient le même besoin que vous, parce que finalement, si vous êtes lancée dans la lingerie, c'est parce que vous ne trouviez pas ce dont vous aviez envie, donc vous l'avez créé.
Oui, ma génération de jeunes femmes avait envie de choses différentes. Je leur ai proposé de la lingerie différente, plus fantaisie, plus originale, dans des matières différentes, et j'ai remis au goût du jour quelque part la lingerie à une époque où c'était plus trop dans le coup.
Alors c'est vrai qu'il fallait beaucoup d'humour, d'audace et d'inconscience. C'est une période, vous l'avez dit, assez lourde de revendications féminines. L'heure n'était pas à la frivolité. Même quand vous créez un happening dans les vitrines des galeries Lafayette, finalement tout le monde crie au scandale. On a presque besoin d'un service d'ordre.
Oui, mais ça c'était beaucoup plus tard. Et ça c'est ce qui m'a étonné le plus, parce qu'en fait j'ai pas vraiment jamais eu de problème avec les féministes pendant toute ma carrière. Et même aux États-Unis d'ailleurs, où j'ai fait des défilés aux États-Unis, et ça, au début, j'ai eu avant une conférence avec les journalistes qui me dit oui, mais la lingerie, hein. Et puis elles ont vu le défilé, elles ont compris, elles m'ont dit non, mais vous avez raison, c'est pas du tout provoquant, c'est simplement, et je mets toujours de l'humour dans les créations. Et les Galeries Lafayette, c'est arrivé en 98. À une époque où je pensais que vraiment c'était dépassé complètement cette histoire de féministe et que ça choquait plus personne. Et là, bizarrement, ça a été quelque chose qui a été mal compris. En fait, je revenais sur le marché parce que j'avais eu des problèmes avec des actionnaires japonais. J'avais arrêté pendant 3 ans et je faisais une nouvelle collection. Et j'ai eu l'idée avec les Galeries Lafayette pour lancer cette collection de prendre toutes les vitrines du grand magasin, de recréer un appartement. Donc il y avait toutes les pièces, le salon, la cuisine, la salle à manger, la salle de bain, le dressing, la chambre et tout. Et il y avait des faux mannequins, évidemment, en lingerie. Et 3 ou 4 fois par jour, l'après-midi, pendant 20 minutes à chaque fois, il y avait 3 jeunes filles qui se baladaient d'une pièce à l'autre et qui, en lingerie, mais pas du tout indécente, en lingerie avec pas en string, enfin, c'était, j'avais fait attention quand même, qui vaquaient à leurs occupations chez elles, donc qui pouvaient s'asseoir sur le canapé, bouquiner, qui pouvaient se mettre à leur bureau et dessiner ou travailler. Dans la salle de bain, elles se brossaient les cheveux ou elles se faisaient les ongles. Enfin, des choses qu'on fait chez soi quand on est en lingerie, a priori. C'était pas du tout choquant, et ça a choqué les féministes. En fait, il y avait à cette époque-là un groupe de femmes qui s'appelait Chiennes de Garde, qui en ont profité pour faire parler d'elles, parce qu'on les connaissait pas trop. Et ça a été tout à coup un événement, avec pendant 15 jours des débats télévisés, radio, des heures. Et c'est devenu un phénomène qui était étonnant. Alors avec les gens qui me défendaient, les gens qui étaient contre moi, et tout, c'était assez lourd à gérer. Mais voilà, bon, et puis finalement ça a été très bien parce que ça m'a fait une pub formidable.
Alors il y a bien sûr votre histoire, Chantal Thomas, et puis il y a l'histoire de la lingerie qui n'est pas une histoire mais des histoires finalement, parce que ça touche à l'intime, à l'érotisme, à la séduction, aux normes, à la transgression. Finalement on pourrait dire qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de corps divers à habiller ou à déshabiller.
Oui, enfin ça touche finalement l'évolution de la femme au cours des siècles. Mais c'est aussi l'histoire de la pudeur, l'histoire de l'hygiène. C'est plein d'histoires, oui. C'est bon, ce qu'on a, ce que toutes les femmes ont porté en sous-vêtements depuis à peu près le Moyen Âge, parce qu'on n'arrive pas à remonter avant, de toute façon, parce qu'on a absolument rien.
On n'a plus de traces.
On n'a plus aucune trace. Les seules traces sont les quelques petits dépassement de lingerie qu'on peut apercevoir dans les tableaux, mais on n'a plus de traces parce que le tissu ça s'use. Et puis c'était transformé à l'époque en fait, comme c'était quelque chose de très précieux. Les premières chemises qu'on appelait donc le linge, qui venait du lin, étaient extrêmement précieuses. Et c'était transformé, c'est-à-dire qu'une chemise, la chemise du père devenait un vêtement pour les enfants, ou des couches pour les bébés, ou des bandages pour les malades. Enfin, c'était toujours transformé. On utilisait jusqu'au dernier moment.
Alors justement, on ne s'improvise pas du jour au lendemain. Lingère, vous nous partagez votre savoir, puisque vous êtes une collectionneuse née. Hein. Vous parliez des magazines tout à l'heure, mais vous avez énormément de magazines anciens. Et la pudeur, c'est vrai que c'est la clé, c'est le fil conducteur de l'histoire de la lingerie. Hein. La pudeur, ça c'est vraiment ça. Et votre principe, finalement, il ne faut surtout pas cacher ce qui est joli pour vous.
Oui, enfin, ça dépend quand même. Non, mais je trouve que, enfin, si vous voulez, la pudeur, oui, parce que dans tous ces siècles, il y a eu des périodes de grande pudeur, hein, où vraiment on ne montrait rien, et des périodes beaucoup plus légères, finalement, avec des décolletés très profonds, et où on montrait beaucoup plus. Sauf qu'on n'a jamais montré les jambes, par exemple. Et je considère que si on a quelque chose de joli, autant le montrer et le mettre en valeur en tout cas.
Et vous avez joué finalement de la lingerie comme un accessoire, et la frontière entre le visible et l'invisible, le dessous et le dessus est devenue fine.
Oui, parce que moi j'ai traité la lingerie toujours comme de la mode, comme je venais de la mode, et c'est en fait là, je pense, où j'ai apporté quelque chose. C'est que j'ai créé de la lingerie pour la montrer. Alors pour la montrer ou pour la laisser deviner. Mais à une époque où on montrait moins, où on montrait pas trop sa lingerie, Et je l'ai toujours considéré comme un accessoire de mode. Et comme je venais de la mode, ça m'a paru tellement tout à fait évident de faire des collections d'été, des collections d'hiver, parce que je trouvais qu'il y avait des couleurs qui étaient plus hiver, plus été, et de la faire suivre la mode. Et je pense que c'était une époque où, quand j'ai commencé ça, personne ne le faisait. Les fabricants de lingerie avaient des collections qui étaient toujours les mêmes, dans les mêmes couleurs, et rajoutaient de temps en temps un nouveau modèle, mais c'était relativement classique. Moi, j'y ai apporté des matières différentes, des tissus originaux, des décalages. Par exemple, je joue beaucoup avec le côté masculin-féminin. Et je mettais les bustiers par-dessus. Par exemple, je faisais des bustiers que je mettais par-dessus les pull-overs ou par-dessus les chemises. Des soutiens-gorge qu'on voyait avec une transparence. Enfin, oui, je l'ai montré, oui.
D'où l'évolution s'est éloignée du fameux blanc qui était la couleur, évidemment, des sous-vêtements. Vos couleurs fétiches, ben, c'est le noir et le rose. Elles sont connues. Finalement, le plus important pour une femme, c'est de s'habiller pour le monde ou se déshabiller pour un homme?
Moi, je pense que la lingerie, c'est d'abord quelque chose qu'on achète pour soi et qu'on porte pour soi. Alors c'est clair que on peut aussi séduire avec de la lingerie, mais que le matin quand on se met, parce que quand même tous les matins on se met un soutien-gorge et une petite culotte en général, et on le met d'abord pour soi, parce que on vous voit pas pendant la journée. Mais ça donne, si on se sent bien dans sa lingerie, ça donne une attitude différente, on se sent mieux, et on peut se sentir belle même si personne le voit. Alors, effectivement, ça peut aussi servir à séduire.
Finalement, l'élégance, est-ce ce qui ne se montre pas? Et la lingerie, justement, est la base de l'élégance.
Moi, je pense que la lingerie, c'est un luxe très raffiné, parce que c'est un luxe qui ne se voit pas, justement, oui. C'est un luxe et une élégance qui ne se voit pas. C'est pas un luxe tapageur du tout, non.
Et vous aimez jouer avec la curiosité. Alors, à travers l'histoire de la lingerie, on a aussi rendez-vous avec l'histoire littéraire, hein, parce que dans votre livre, on a rendez-vous avec Zweig, Balzac, Zola, Maupassant et bien d'autres qui ont évoqué également l'histoire de la lingerie ou la lingerie au cours de leur époque.
Oui, complètement, parce qu'en fait, ce sont les écrivains ou les peintres qui ont le mieux décrit les femmes à toutes les époques, oui.
Pour terminer, la lingerie masculine, une autre histoire à créer et à raconter également.
Bah écoutez, les hommes, ça a été plutôt... en fait, ils s'habillaient, ils mettaient beaucoup plus de lingerie très fantaisie au 18e, 17e, 18e siècle, parce qu'ils mettaient de la dentelle, des volants. Et puis, au 19e, c'est devenu beaucoup plus fonctionnel et classique. Et les sous-vêtements hommes ont quand même pas mal évolué ces dernières années avec les matières, en fait, avec les matières lycra, les matières beaucoup plus moulantes et confortables. Mais c'est vrai que il y a quand même moins de choses à faire. C'est plus limité.
Justement, le défi est peut-être plus grand.
Eh oui, j'essaie. Bon.
Voilà, en tout cas, ça passe aujourd'hui par l'histoire de la lingerie au féminin par vous, Chantal Thomas. À travers ce très beau livre, on apprend énormément de choses, qui est paru chez Perrin, l'histoire de la lingerie par vous, Chantal Thomas. Un très, très grand merci.
Merci.